Interview.
1 du jour.
Vous écoutez RDWA sur le 107.5 FM et sur internet www.rdwa.fr et je suis avec Yves Bonnardel. Salut Yves.
Oui, salut.
Ah, ça faisait longtemps qu'on t'avait pas eu à l'antenne, tiens.
Oui, non, je suis intervenu à Feu de tout bois la semaine
dernière. Oui, la semaine dernière, exact, ouais. Exact. Alors ça, c'est pour les auditeurs qui suivent bien. Yves, on se rappelle de tes interventions, surtout à la radio, pour nous tenir au courant de différents combats d'importance. Moi, j'avais pris beaucoup de plaisir à parler de la condition animale et humaine avec toi. Ceci pour que les auditeurs éventuellement replongent dans les archives de la radio. Aujourd'hui, nous allons parler d'un fait plus d'actualité. Il s'agit d'expulsions, de répression policière et d'expulsions massives à travers l'Europe.
Oui, aujourd'hui, on est le 13 octobre. C'est aujourd'hui que débutent 2 semaines de rafles de masse dans toute l'Europe. Du coup, je voulais présenter un peu cette opération qui s'appelle Mos Maiorum et aussi présenter les raisons, à mon avis, qu'on a de s'opposer à ce genre d'opération et de façon plus générale au traitement qui est fait au niveau mondial de la question de l'immigration.
Alors, décris-nous vraiment cette opération de rafle.
Alors, en fait,
parce que rafle, c'est violent, hein, ça nous plonge direct dans les années 45, 40.
Oui, alors bon, en même temps, les gens ne sont pas destinés à être abattus ou exterminés, mais effectivement, là, ce qui va se passer, c'est quelque chose d'assez délirant. C'est à l'initiative du ministère de l'Intérieur italien. Il y a une vaste opération policière qui est coordonnée tout à travers l'Europe, l'ensemble de l'Europe, qui s'appelle Mos Maiorum et qui va durer 15 jours, qui va mobiliser 18 000 policiers pour faire la chasse aux sans-papiers.
Pourquoi d'abord le ministre de l'Intérieur italien propose cette mesure et qu'elle est appliquée au niveau européen, tiens ?
Et c'est simplement que l'Italie est à la gouvernance de l'Europe, là. Elle est passée... En fait, à chaque fois qu'un pays, là depuis 3-4 ans, à chaque fois qu'un pays obtient la présidence européenne, il lance une grande opération à l'échelle européenne de rafle des sans-papiers. Enfin, je dis de rafle, mais c'est-à-dire en fait d'arrestation et de compilation de données, etc. quoi. Et à chaque fois, c'est suivi à l'échelle européenne.
C'est pas forcément un délire italien, quoi. Ça s'est Alors, fait ça, avant.
Oui, voilà. Avant, ça a été fait par les Lituaniens, ça a été fait par les Grecs. Il y a eu plusieurs opérations, à chaque fois, qui ont des noms grecs ou latins. C'est-à-dire, il y a vraiment l'idée de puiser dans une sorte de culture ancestrale européenne. La Mos Maiorum, ça veut dire les mœurs ou les coutumes des anciens. Ce mot-là, il trimballe énormément de valeurs réactionnaires, notamment la notion de majestas romaine, qui est le sentiment de supériorité naturelle d'appartenance à un peuple élu. Il faut voir ce que ça trimballe comme connotation, ce mot-là. Quoi.
Ah ouais, merci c'est... pour les anciens, dis donc.
Ah ouais. Ouais, mais c'est assez délirant, quoi. La gravitas aussi, qui est la notion romaine de respect de l'autorité. Enfin, c'est vraiment très, très réac.
Et militaire presque un peu.
Oui, tout à fait. Mais d'ailleurs, cette opération-là, c'est aussi une opération qui est, qui est faite par des forces de police, mais avec des moyens qui sont carrément des moyens militaires. C'est une opération qui est faite avec donc, l'aval de l'Union européenne, mais qui est une co-organisation de Frontex, de Europol et d'autres officines européennes. Alors, Frontex, qu'est-ce que c'est ? C'est l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures.
Oh là là.
Le beau nom. En fait, depuis octobre 2005, c'est la date de sa première opération, Frontex se charge de mener diverses opérations de surveillance et de contrôle aux frontières extérieures de l'Europe, principalement au sud et à l'est. Et en fait, Frontex a des moyens qui sont proprement militaires, technologiques et policiers, comme des navires, des hélicos, des radars, des détecteurs, etc., qui sont mis à disposition par les États membres de l'Union européenne. Et Frontex dispose d'un budget de plusieurs dizaines de millions d'euros chaque année. C'est le bras armé de la politique migratoire européenne.
Donc, on est bien en train de parler d'immigration, principalement de personnes qui viennent d'ailleurs de pays africains.
Oui, le sud et l'est, les pays de l'est aussi. Hein.
Et des pays de l'est,
ouais.
Qui viennent donc encore une fois, nous piquer notre bon travail en France, c'est ça,
c'est ça.
Ou ailleurs.
C'est ça.
C'est faire ça. Chuter l'économie européenne, ouais, bien sûr. Ouais, ouais. C'est à cause de ces méchants sans papier. Donc, l'opération dont j'ai oublié le nom latin. Et
Mos Maiorum, Mos les mœurs Maiorum. Des ancêtres. Ouais.
C'est ouais, violent. Ouais. Donc ça, c'est, alors là, c'est l'idée que pendant une certaine période, à partir d'aujourd'hui, 13 octobre, jusqu'à quand ?
Jusqu'au 26, ouais. Pendant 15 jours, c'est-à-dire pendant 15 jours, il va y avoir une présence policière massive sur les 32 États de l'Union européenne, plus encore 4 États extérieurs.
Donc chaque État va mettre à disposition d'une opération européenne un certain nombre de forces de police pour pratiquer ces rafles dans son pays.
Oui, c'est ça. Et donc, il faut s'attendre à avoir beaucoup plus de contrôle sur les nœuds de circulation, que ce soit dans les gares, au péage des autoroutes, à de différentes voies, aux frontières, etc., les aéroports et autres, quoi.
Alors, puisque cette opération, tu le disais, se fait quasiment systématiquement à chaque fois qu'un nouveau gouvernement prend la tête de l'Europe, est-ce que c'est des opérations qui fonctionnent ? Est-ce qu'on rafle beaucoup de gens, justement ?
Quand même, je dirais que pour les moyens qui sont engagés, c'est plutôt dérisoire. Mais pour les sans-papiers, c'est quand même quelque chose d'assez terrifiant. C'était en octobre et novembre 2012, l'opération Aphrodite. Elle a quand même permis d'arrêter à travers l'Europe pratiquement 5300 personnes, qui donc ont été majoritairement mises dans des centres de rétention, puis renvoyées dans leur pays, ou en tout cas le pays
qu'on a identifié.
Ouais.
Comme étant le leur.
Et c'est ce genre d'opération, en fait, je pense, est plus destiné à créer un sentiment d'insécurité dans la population des sans-papiers qui vivent en Europe. Finalement, à mon avis, l'interprétation que j'en ai, a favorisé leur exploitation sur le marché du travail au noir et sur le marché du travail clandestin, en fait.
Ça n'a même pas une fonction dissuasive pour d'autres qui voudraient éventuellement venir en se disant « quand même vraiment l'Europe, ça devient de moins en moins cool ».
Je sais pas, ça je ne me rends pas compte. Je sais qu'on a un peu moins de 500 000 entrées en Europe chaque année de l'immigration des pays pauvres. Et par contre, il y a un nombre de morts énorme. Enfin, rien que sur la Méditerranée, là, depuis l'an 2000, il y a 40 000 personnes qui sont mortes dans la Méditerranée, qui sont noyées.
Qui n'arrivent pas à passer.
Ouais. Voilà, qui n'arrivent pas à passer, mais qui en meurent. Quand on parle de 500 000 entrées, moins de 500 000 entrées, hein, c'est 430 000 ou quelque chose comme ça, c'est en fait très peu. L'Europe est relativement peu une destination. On a le gros fantasme ici que si on ouvrait les frontières, on serait submergé par l'immigration. Mais les gens qui viennent, c'est des gens qui sont un peu poussés, souvent par la famille ou des trucs comme ça. Mais c'est compliqué pour eux de venir. Ça veut dire abandonner toute leur famille et leurs réseaux sociaux, etc. Enfin, ce n'est pas une partie de plaisir. Il n'y a pas non plus tant de gens que ça qui se précipitent.
Par contre, ça se voit presque un peu, ça peut se mesurer que eh bien, le travail de ces personnes-là est toujours effectif. Les entreprises européennes embauchent les sans-papiers sans vergogne.
Ah oui, ça, une grande partie du travail de la restauration et du travail du bâtiment est effectuée par des sans-papiers. Et la bonne santé des entreprises européennes dans ces domaines-là, elle vient en grande partie de l'exploitation du travail des sans-papiers, qui donc est permise par leur illégalisation et par la pression policière qui est exercée à leur encontre.
Donc parce qu'ils sont persécutés, ils n'hésiteront plus à aller travailler pour trois fois rien.
Oui, c'est ça. Ils ne peuvent pas s'organiser, en fait. C'est extrêmement difficile pour eux de résister à des patrons mal intentionnés. Et très souvent, les patrons qui emploient des sans-papiers les emploient justement parce que c'est une main-d'œuvre corvéable à merci, quoi.
Alors j'invite les auditeurs à voir un reportage qui était sorti une fois sur la 6, qui parlait des pratiques de Bouygues. Donc Bouygues est très connu, hein, quand même. Et la 6, il me semble que ce n'est pas une chaîne particulièrement militante, mais ce reportage était intéressant. Parlait de la quantité de travailleurs sans papier qui étaient embauchés par Bouygues pour faire des magnifiques ponts.
Oui, c'est énorme. Il y a eu des travaux qui ont été faits en économie qui montrent à quel point l'exploitation des sans-papiers est quelque chose de crucial pour toute une partie du patronat français et aussi joue un rôle global de pression dans le rapport capital-travail au détriment des salariés. Évidemment, s'il y a des centaines de milliers de personnes dans un pays qui doivent travailler au noir d'une façon non protégée, etc., évidemment, ça fait baisser l'ensemble des salaires des pays concernés.
Et puis, évidemment, ils embauchent moins.
Oui, il y a ça aussi, oui.
Donc, on peut faire monter comme ça le discours nationaliste.
Oui, complètement. C'est vraiment le problème de l'immigration. C'est un problème qui a été mis en scène à partir de Giscard, justement pour recréer un clivage dans la population et pour permettre de casser plus ou moins le discours sur les luttes sociales, l'unité des travailleurs, etc., etc. Ça a super bien marché. En France, pas tout particulièrement, mais ça marche malheureusement dans d'autres pays, quoi. On se laisse manipuler vraiment extrêmement facilement par les classes possédantes, quoi.
Alors, quand tu parlais en introduction d'émission du fait qu'il fallait qu'on soit quand même au courant de ça parce qu'il fallait s'en méfier, c'est principalement pour ces raisons.
Bah, la première, il faut être au courant parce qu'il faut avertir autour de soi toutes les personnes qu'on connaît qui sont sans papier, qu'il faut qu'elles se méfient pendant 15 jours. Et je pense aussi que c'est extrêmement important, moralement et politiquement, d'être solidaire, c'est-à-dire de proposer notre aide aux gens qui sont susceptibles d'être ainsi raflés puis déportés. Soit en les hébergeant, soit simplement déjà les informer, mais ça peut être aussi intervenir quand il y a des interpellations, etc. etc. Par exemple, à Paris, il y a tout un quartier à Belleville qui s'est organisé pour prévenir les rafles. Il y a des rafles extrêmement fréquemment. Énormément d'habitants du quartier se sont organisés pour, dès qu'il y en a un qui voit une rafle, il y a une chaîne téléphonique, il avertit tout le monde, et les gens descendent dans la rue et s'interposent, essayent d'éviter les interpellations, quoi. J'en parlerai ensuite parce que je veux expliquer pourquoi je pense que c'est un devoir de type moral de notre part de s'interposer face à ce type de politique. Mais je pense qu'aussi politiquement, c'est extrêmement important de recréer des solidarités à ce niveau-là, au lieu de toujours considérer une sorte de frontière qui opposerait nos intérêts à ceux des immigrés, etc. Pour un certain nombre de gens, il faut bien se rendre compte que les histoires d'être redéporté dans son pays, ça peut être une question de vie ou de mort. Il y a des femmes qui passent en Europe parce qu'elles sont menacées de mariage forcé ou parce qu'elles ont été menacées de mort pour telle ou telle raison, etc. Il y a des gamins qui passent les frontières parce qu'ils sont menacés de mort dans leur pays. Il y a des hommes qui passent les frontières parce qu'ils sont menacés de mort, parfois parce qu'ils sont homo. Bah, c'est pareil, par exemple, pour les lesbiennes, etc. Par exemple, sur Grenoble, il y a une organisation d'aide aux sans-papiers, homo ou lesbiennes, qui ne trouvent pas d'asile politique en Europe pour cette raison-là, mais qui, s'ils sont envoyés dans leur pays, risquent réellement la mort. Il y a même des pays qui sont en passe d'adopter des lois qui punissent de peine de mort l'homosexualité, etc. On ne reconnaît pas ces personnes-là.
Il y a des pays où c'est déjà le cas. Hein. Oui, oui.
Oui, c'est ça. Et bon, là, je prends un exemple, en espérant que c'est un exemple qui peut susciter l'indignation. Mais il y a énormément d'autres exemples qui peuvent être beaucoup plus complexes, mais qui reviennent à peu près aux mêmes conclusions. Quoi.
Oui, et puis souvent, médiatiquement, on est au courant de quelques réfugiés politiques qui sont des grands noms. Ici, un grand réalisateur arménien.
Oui,
là,
tout à fait.
Cela, ça va parce que bon, c'est l'élite et en général, on pense assez peu à Monsieur Tout-le-Monde.
Oui, moi, j'ai eu l'occasion d'héberger des réfugiés russes ou arméniens qui fuyaient les mafias de leur pays parce qu'ils s'y étaient opposés, mais je veux dire qu'ils n'avaient pas du tout obtenu l'asile politique et qui étaient obligés de vivre dans la clandestinité et dans la misère parce qu'ils ne pouvaient pas travailler.
Tu voulais nous décrire
Là, sur l'opération Mas Maiorum, bon, tout à l'heure, je disais que c'était sur les territoires des 32 pays de l'Union européenne. C'était une erreur. C'est sur les territoires des 28 pays de l'Union européenne, plus 4 pays qui sont non membres de l'Union européenne, mais qui sont membres, par contre, de l'espace Schengen. Alors, l'espace Schengen, c'est un espace qui existe depuis, je ne sais plus combien de temps, 15-20 ans, qui est un espace de
frontières communes.
Oui, ouais. Voilà, de frontières communes et de garde de la frontière. On parle de la forteresse Europe, mais c'est effectivement une réelle forteresse. On n'a pas un mur comme le mur de Berlin, on n'a pas un mur comme le mur qui sépare la frontière des USA de celle du Mexique. C'est pas un mur, en tout cas en béton, en parpaing et avec des miradors et des trucs électrifiés, mais il y a un mur qui est un mur administratif d'une part et qui est un mur de douane et de contrôle aux frontières qui est extrêmement performant et qui est extrêmement meurtrier, au moins pour ce qui est de la Méditerranée. C'est-à-dire énormément de gens essayent de passer la Méditerranée et se retrouvent pris par les gardes frontières et ramenés dans des centres de rétention dans des pays qui sont non européens, ce qui leur permet d'être traités comme de la merde en dehors des juridictions européennes. En Libye, par exemple, sous le régime de Kadhafi, etc., etc., où les gens sont parfois torturés. Il y en a qui a priori disparaissent, c'est-à-dire sont tués, sans qu'évidemment personne n'en soit avisé, etc. quoi. Il y a aussi des personnes qui sont relâchées dans le désert, par exemple, et qui meurent de soif là-bas. Enfin, c'est assez atroce ce qui se passe de façon générale par rapport aux questions de sans-papiers.
Alors ça, c'est pour ceux qui se font attraper.
Ça,
sinon,
c'est pour ceux qui sont attrapés.
L'autre pire, c'est ceux qui coulent, tout simplement.
C'est ceux qui coulent ou qui sont jetés par-dessus bord par les passeurs aussi, puisqu'il y a vraiment plein de façons de les exploiter sur le... sur le trajet.
Sachant qu'ils payent à chaque fois leur trajet, hein, bien sûr.
Oui, oui, oui.
Et puis alors, pour le au mieux, c'est ceux qui arrivent, qui échouent à Lampedusa, par exemple, dans par le exemple. Très fameux camp italien.
Ouais, ouais, ouais. Et on a comme ça, avec cette question des papiers et de la restriction de l'immigration, on a vraiment créé une sous-catégorie de personnes qui ne bénéficient pas des droits élémentaires qui nous sont accordés en tant que ressortissants de l'Union européenne. Et ce qui permet d'opposer, en fait, deux catégories de population, quoi. Ceux qui sont légitimes sur le sol européen et ceux qui ne le sont pas. Ce qui permet plein de manipulations de type politique, mais aussi, donc, comme j'en ai parlé, économique. Je voulais parler des raisons fondamentales qui font que je juge absolument insoutenable, injustifiable la politique migratoire au niveau mondial. Avec un ami qui s'appelle David Olivier, on a écrit en 1997 un manifeste qui a été signé maintenant par des milliers de personnes dans le monde, qui s'appelle le Manifeste pour l'abolition de l'apartheid international. J'en avais lu une partie à l'émission Feu de tout bois. Là, ce que je me propose, c'est d'en relire un passage et un peu une explication. C'est en fait un argumentaire contre la discrimination fondée sur la nationalité des individus.
Juste avant, un manifeste qu'on peut encore signer?
Oui, bien sûr. En fait, c'est un manifeste qui est sur Internet à l'adresse apartheid-international.org. Alors, apartheid comme l'apartheid interracial sud-africain, je vais vous expliquer pourquoi. International, parce qu'il n'est pas interracial, mais international.
Et qu'il ne s'est pas passé qu'en Sud-Afrique.
Oui, oui, tout à fait. Bon, bah, du coup, je vous lis l'argumentaire. Je vous le lis parce que, comme il s'agit d'un argumentaire, c'est plus facile finalement de lire quelque chose qui est déjà écrit, qui essaie de reconstituer les arguments dans... Voilà. C'est le principe éthique et politique d'égalité de tous les individus de l'espèce humaine est aujourd'hui reconnu par presque tous. Il est admis quasi universellement que toute discrimination entre individus humains basée sur un critère arbitraire est injuste et doit être abolie. Depuis la fin de l'apartheid interracial en Afrique du Sud, plus aucun État ne pratique ouvertement la discrimination entre humains en fonction du critère arbitraire de la couleur de la peau. Aujourd'hui, cependant, un autre critère tout aussi arbitraire reste admis et appliqué par presque tous les États du monde. Le fait pour un individu humain de naître en un lieu plutôt qu'en un autre, de parents d'une nationalité plutôt que d'une autre, et donc de posséder lui-même une nationalité plutôt qu'une autre, résulte du hasard et ne peut pas être accepté comme critère non arbitraire de discrimination. En fonction de ce critère arbitraire de nationalité, les États accordent ou refusent aux individus humains le droit de séjourner sur leur territoire, ainsi que l'accès aux avantages sociaux dont bénéficient les natifs. Cette discrimination arbitraire, tout comme l'apartheid interracial en Afrique du Sud, ne serait qu'une curiosité absurde mais relativement bénigne s'il n'en résultait qu'une simple séparation. Or, la réalité de fait du monde d'aujourd'hui est marquée par l'existence de vastes zones dont les habitants, en majorité, vivent dans un état de misère prononcé et subissent une mortalité élevée. Et d'autres zones dont les habitants bénéficient de conditions, sinon toujours bonnes, du moins considérablement meilleures que celles qui sont la règle dans les régions pauvres. Le refus de permettre à certains individus, sur la base de leur nationalité, de séjourner dans les pays riches, représente de fait, tout comme l'apartheid interracial, un refus arbitraire d'accorder à certains des avantages souvent vitaux qui sont accordés à d'autres. Alors, le manifeste continue en disant « Nous reconnaissons par conséquent comme gravement contraire aux principes éthiques et politiques d'égalité des personnes humaines, les lois et règlements des États, et en particulier des États des zones riches, qui interdisent l'entrée et le séjour sur leur territoire à des individus en fonction de leur nationalité. Nous exigeons l'abolition de cet apartheid international et nous exigeons que soient prises toutes les mesures appropriées pour rendre effective cette abolition dans le délai le plus bref. En application du principe éthique et politique d'égalité des personnes humaines, nous reconnaissons comme illégitimes ces lois et règlements. Nous exigeons leur abolition et nous exigeons que tout être humain, indépendamment de sa nationalité, puisse séjourner sur le territoire de tout État et bénéficier de façon égale de tous les avantages dont bénéficient ses ressortissants. Nous nous déclarons non tenus de respecter ces lois illégitimes et prêts, le cas échéant, à les transgresser et à aider autrui à les transgresser. Ça, c'est le texte du manifeste. C'est un manifeste qui a été signé par des gens de tous les continents et de toutes les langues. Il est traduit en espagnol, en portugais, en espéranto, en anglais, en allemand, en turc, je crois. C'est un manifeste qui, à mon avis, aurait pu fonder le refus de la politique migratoire des États. Ça n'a pas été le cas. Je trouve que c'est dommage parce que c'est vraiment un argumentaire de fond basé vraiment sur l'idée d'égalité humaine.
Est-ce que ça ne soulève pas la question de l'égalité des États entre eux? Je vais me faire le gros bourrin de base qui va dire « Ah bah oui, mais nous en France, on a un super système social, plein de protections, alors tout le monde va venir ici pour bénéficier des mêmes conditions que les natifs. On va donc se faire submerger ?»
Oui, si c'était le cas, je trouve, enfin, ça serait néanmoins juste. C'est-à-dire que c'est tout à fait juste que les gens bénéficient de ce qui se fait de mieux au niveau mondial, je pense. Si on a pu avoir des conditions encore relativement favorables à l'heure actuelle par rapport à beaucoup d'autres pays du monde, c'est en partie parce que nos parents, nos grands-parents et autres ont lutté pour ça pied à pied et de façon extrêmement difficile. Mais c'est aussi parce que la France a été un pays impérialiste et colonial.
Oui, j'allais dire parce qu'on a quand même pillé le reste.
Oui, on a pillé les autres pays. Autant on s'est enrichi, autant on les a appauvris. Clairement, les luttes qui ont eu lieu dans le passé, ce n'étaient pas des luttes nationalistes de la part, par exemple, du mouvement ouvrier. C'était très, très souvent des luttes internationalistes où le but n'était pas de soit se constituer des privilèges, c'était d'étendre ce dont on pouvait bénéficier de façon universelle. L'idée, c'était on commence ici parce qu'on est ici, mais il faut que ça s'étende au monde entier.
Oui, voilà, les congés payés n'avaient pas vocation à rester que français, quoi.
Oui, tout à fait. L'ouverture des frontières, je pense, imposerait de revoir les solidarités internationales. De fait, s'il y a une beaucoup plus grande liberté de circulation des personnes, je pense que les solidarités aussi seraient beaucoup plus importantes.
L'apartheid n'est pas tant porté sur les gens, mais plus sur les États, quoi. C'est un apartheid mondial d'État entre États.
Oui, tout à fait. Mais ce sont les individus qui en souffrent, disons.
Ah bah.
Mais oui. Par exemple, moi, j'ai été en Turquie. J'ai aucun problème pour avoir tous les visas nécessaires pour voyager à travers tous les pays entre la France et la Turquie. Et je peux rester en Turquie. Et j'ai été magnifiquement reçu par tous les Turcs que j'ai rencontrés. Mais j'avais honte de la façon dont nous, on les reçoit. Et en fait, les amis que je me suis fait en Turquie ne pouvaient pas venir me voir en France. Il y a une injustice qui est énorme à ce niveau-là. Moi, je peux voyager partout dans le monde en tant que Français. La majeure partie des habitants de la planète n'ont pas cette possibilité-là. C'est ça, l'inégalité. Concrètement, c'est une injustice.
Mon argumentaire de défenseur des enfoirés n'a pas marché.
Ben, moi je lisais là ce texte du manifeste pour l'abolition de l'apartheid international parce qu'il appelle à un changement important par rapport à l'état actuel des choses et je pense que cette radicalité est vraiment nécessaire. On ne peut pas par exemple reprocher aux agents de l'État de contrôler et d'expulser les immigrés tout en approuvant les lois qui fondent ces mesures. On ne peut pas leur reprocher les contrôles faciès quand il y a des lois qui incitent à ça. Enfin, on ne peut pas exiger la régularisation des sans-papiers en France tout en acceptant, par exemple, la fermeture des frontières à qui n'a pas eu la chance ou l'habileté de traverser les mailles du filet. C'est une question de cohérence, tout bonnement, enfin, et de logique. Et il y a une sorte de frilosité aux conséquences tragiques au sein de la gauche en France, mais dans le monde entier.
Oui, tu ne parles pas de la droite parce que c'est acquis.
Oui,
bon, d'accord.
Ben, la droite, ce n'est même pas qu'elle est frileuse. Malheureusement, ça serait trop beau qu'elle soit frileuse. Non, mais ce qu'on appelle encore la gauche se refuse à considérer les problèmes de façon globale et de façon radicale, entre guillemets. Ce n'est pas que ce soit extrêmement radical pour autant, mais on va s'opposer au contrôle aux faciès ou on va demander la régularisation des sans-papiers, mais sans demander la fin du système global qui pose les problèmes. C'est d'une certaine façon avaliser ce système global. Et on ne vide pas un océan à la petite cuillère, on ne vide pas une piscine à la serpillière. Enfin, c'est,
Que craint-on ? Que défendent ces États ? C'est
quoi ils défendent un ordre de domination à l'échelle mondiale. Ils défendent un ordre de répartition inégalitaire des richesses qui est non seulement entre classes sociales, mais entre pays, comme tu le disais, avec une sorte de répartition des rôles de production et de consommation à l'échelle mondiale qui est inégalitaire.
Donc on se bat contre, encore une fois, le même système capitaliste de départ, ou est-ce que c'est encore plus vaste?
Eh bien, on se bat contre le système capitaliste à travers un des éléments de la domination capitaliste, qui est justement cette séparation internationale des revenus, des capitaux et du travail, etc. C'est une des discriminations fondamentales qui structurent l'ordre mondial, mais comme les discriminations hommes-femmes en sont une autre, les discriminations religieuses, les discriminations d'âge aussi. Moi, je pense qu'on ne peut pas se dire partisan de l'égalité humaine tout en acceptant que le critère arbitraire de la naissance continue à peser aussi lourdement sur le sort des individus. On ne peut pas condamner le cramponnement passé de la population blanche d'Afrique du Sud à l'apartheid sans remettre en question notre propre soutien à un autre apartheid, à l'apartheid qui nous arrange, qui est cet apartheid international. C'est quelque chose qui n'est jamais problématisé comme tel, y compris donc, ce que je disais, au sein de ce qu'on appelle encore la gauche. Et je pense que c'est ne pas le problématiser, c'est d'une certaine façon l'accepter. Et il n'est pas acceptable, cet apartheid international.
Y a-t-il des opérations qui sont faites de mouvements citoyens autres que se manifestent sur Internet?
Alors, il y a énormément d'organisations, soit de soutien aux immigrés ou et particulièrement aux sans-papiers.
Voilà, d'action sur le terrain.
Dans les milieux un petit peu radicaux, anarchisants ou alternatifs un petit peu radicaux, il existe de pratiquement tous les ans ou tous les deux ans des rassemblements. Les rassemblements No Borders, qui sont des rassemblements de refus des frontières et du coup de refus des discriminations liées aux nationalités. Ils ne l'expliquent pas de la même façon. Les slogans, ça va être « personne n'est illégal » et puis « pas de frontières ». Mais le fond est à peu près le même. Disons qu'il n'y a pas cet argumentaire construit sur les notions, à partir de la notion éthique et politique d'égalité humaine. Mais on est sur un même fond. Ensuite, le problème, c'est que ce sont des rassemblements qui sont ponctuels, qui permettent aux gens qui luttent dans les différents pays de se rencontrer et d'échanger les nouvelles, des états des lieux et éventuellement des modes de lutte, mais qui globalement, je dirais, ne sont pas très efficaces. Ensuite, il y a les organisations de sans-papiers eux-mêmes et d'immigrés eux-mêmes, mais qui sont relativement isolées dans notre société, quoi. Et là encore, je pense qu'il y a vraiment un travail de solidarité à mener.
Et puis enfin, des actions spontanées de défense de sans-papiers à certains moments. Comme
oui,
ça.
Ben là par exemple, par rapport à l'opération Mons Maiorum, il y a des distributions massives de tracts qui ont lieu dans plusieurs pays. Je sais que ça a commencé en Allemagne, qui en a eu lieu à Paris. Je crois qu'ils s'en préparaient à Lyon pour avertir les gens dans la rue de ce qui se trame, de l'intensification donc, des contrôles au carrefour, dans les gares, etc., etc., avec des textes qui ont été écrits dans une bonne dizaine de langues différentes, qui sont les langues les plus parlées par les sans-papiers de nos pays, quoi.
Est-ce que tu ferais partie de ceux qui font cette proposition de jeter ces papiers?
Oui.
En tant que bon Français.
Moi, je trouverais que ce serait une opération extrêmement intéressante à mener. Il ne faut pas le faire individuellement, ça ne sert à rien. Mais par contre, si on arrive à un moment donné, effectivement, à fédérer suffisamment de force pour le faire massivement, je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important de signifier notre refus de cet ordre national et international et de le signifier notamment sous cette forme-là, quoi. C'est Gandhi, par exemple, qui avait organisé ce type d'action justement dans l'apartheid interracial. Où il s'agissait là pour le coup de papiers qui étaient non seulement des papiers nationaux mais qui étaient raciaux.
Voilà. Colonies, ouais.
Mais le problème est à peu près le même, effectivement. Et effectivement, ce serait un mode d'action extrêmement intéressant. Ensuite, à l'heure actuelle, les forces sont extrêmement divisées et malheureusement, la plupart des organisations qui luttent sur la question des papiers, des sans-papiers, etc., n'ont pas cette volonté-là, cette radicalité-là. Et notamment, beaucoup d'organisations réclament des papiers pour tout le monde, plutôt que de réclamer l'abolition des papiers. Par exemple, dans un autre domaine qui est la question des mineurs, les moins de 18 ans à l'échelle mondiale, l'UNICEF a lancé une énorme campagne pour que l'ensemble des gens qui des enfants soient déclarés à la naissance. Parce qu'en fait, il y a dans des zones énormes de la
surface du globe,
de la surface du globe, les parents ne pensent pas du tout à déclarer la naissance à une quelconque autorité. Et,
oui.
Ça s'était jamais fait, ils ne voient pas pourquoi ils le feraient. Mais après, c'est des enfants qui n'ont pas d'état civil, qui n'ont pas de papier, et du coup, qui se voient refuser des services élémentaires, comme des services de santé, des services sociaux, et puis les services scolaires, etc.
On appelle ça des apatrides, quoi. C'est pire alors, encore que d'être sans
oui,
papier.
Oui, c'est ça. Mais alors, au lieu de réclamer que désormais, ces services-là ne soient plus inféodés à la possession de papier, l'UNICEF fait campagne pour qu'il y ait un contrôle global à l'échelle mondiale des naissances de tout le monde, quoi. Avec des arguments de type oui, ça permettra de mieux répondre aux besoins, etc. Mais ça permet surtout un meilleur fichage global des populations et ça permet de cette sorte d'encasernement serré de chacun dans sa nation. Sachant qu'en plus, en général, dans les pays pauvres, tu émigres pas comme tu peux, y compris d'un pays pauvre à l'autre. Quoi.
Mmh. Eh bien oui, nous parlons encore une fois de fichage, hein, finalement, on en est là. Hein. Papier, sans papier, autorisé à entrer quelque part ou pas.
Alors, ça nous mène effectivement un petit peu à un autre sujet, mais l'histoire du fichage en France, c'est extrêmement intéressant. L'histoire de la carte d'identité, par exemple, c'est quelque chose, quand on se penche dessus, c'est assez révoltant. Les premières cartes d'identité, enfin les ancêtres des cartes d'identité, c'était le carnet ouvrier, où en fait, on ne pouvait pas se déplacer d'une ville à l'autre, d'une région à l'autre. Quand on était ouvrier, on avait un carnet qui devait être visé par les autorités. Et à la fin du XIXe siècle, il y a des carnets qui se mettent en place pour les comment est-ce qu'on appelle ça les gens qui sont migrants, enfin qui vivent de façon nomade. Et les véritables cartes d'identité se mettent en place par rapport à l'immigration, c'est-à-dire que c'est pas du tout, c'est vraiment d'emblée pour contrôler les populations qui viennent d'ailleurs, etc. Et c'est sous Vichy vraiment que ça va être généralisé et avec. Les conséquences,
oui,
voilà, avec les conséquences qu'on sait et la mention de la race, etc.
Alors, on rappelle quand même le nom de cette opération Mos Maiorum, c'est ça ?
Oui, Mos Maiorum, Mos M-O-S et Maiorum M-A-I-O-R-U-M. Si vous voulez faire des recherches sur Internet là-dessus, tapez Mos Maiorum plus Frontex, par exemple, parce que sinon, vous allez tomber que sur des textes sur les mœurs des anciens.
Oui, la définition Wikipédia qui est toute sympathique.
Oui, qui est vraiment sympathique, oui.
Donc, c'est une opération de rafle des personnes sans papier, ceci à l'échelle de l'Europe,
oui.
Même mieux à l'échelle de l'espace Schengen,
oui,
ça permet de rafler en Suisse, donc,
oui,
par
oui,
exemple,
oui.
Ou en Turquie. Prévenez les personnes que vous connaissez sans papier, révoltez-vous, indignez-vous.
Oui, tout à fait. Et s'il y a la possibilité de s'organiser au niveau des quartiers, etc., je pense que c'est extrêmement important de commencer à créer des foyers de résistance à cet ordre international.
Et allez donc jeter un coup d'œil, ce que je vais m'empresser de faire, sur l'ensemble de ce manifeste Apartheid International que vous avez proposé et que tu nous as proposé à la lecture. Yves, merci.
Eh bien, merci aussi.
À la prochaine.
Oui. Au revoir.
Interview. Hey, the bird.
L'interview du jour.